première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
De toute pièce, Philippe de Gobert. Ça veut dire quoi?
C'est extrait d'un texte que j'avais écrit où je dis que je construis mes maquettes de toutes pièces, une histoire comme ça. Parce que ça peut être pris dans toutes sortes de sens.
Oui, comme des pièces d'une habitation ou des pièces.
Des pièces d'une habitation.
Imaginaire.
Quand on dit de toutes pièces, entièrement. Donc ça peut être pris dans ce sens-là aussi.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tento, me tente, tonton, stélie.
Le monde invisible.
Construit de toutes pièces, c'est-à-dire du début à la fin. C'est ça que ça veut dire aussi en partie. C'est pas tellement les pièces, les lieux dans l'espace. C'est pas enfin, pour moi, c'est pas non. Mais chacun lit comme il veut, quoi.
Vous avez dit maquette, et j'ajoute photographie, point d'interrogation.
Ben, il y a les deux.
Au Musée d'art contemporain du Grand Tournai jusqu'au 3 septembre, Philippe de Gobert, de toutes pièces. Avec Philippe de Gobert, Tony Guilen, Lino Polegato, Frédéric Van Leuven, Ouda Hamid, et les voix de Aline Vidal, Michel Botson, Herman Dalette et Maurice Culot. Philippe de Gobert, de toutes pièces, par Thierry Junico. Le monde invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Donc, c'est-à-dire que, de toute façon, il y a toujours, dans mon travail, ça commence toujours par la construction des modèles. Enfin, moi, j'appelle ça des modèles, plus exactement, plus que des maquettes. La maquette, c'est la forme, mais pour moi, c'est plus un modèle parce que ça sert de modèle à réaliser une photo. Comme un peintre utilise son modèle pour faire sa peinture.
Il y a un mot que vous ne dites pas, qui est architecture.
Les premiers modèles, les premières maquettes étaient plutôt axé sur les ateliers d'artistes. Et puis après ça, c'est devenu beaucoup plus l'atelier dans son absolu. Et dans un troisième stade, je me suis fort intéressé à certaines architectures précises. Ce qu'on verra dans la dernière salle, c'est uniquement presque des photos faites toujours d'après des maquettes, mais des maquettes qui sont inspirées d'architectures existantes. Je choisis des architectures emblématiques. Par exemple, la maison de verre de Charot, l'atelier de Melnikov, la cité radieuse de Corbusier, la villa Wittgenstein à Vienne, ça c'est les éléments principaux.
Et qu'est-ce qui rassemble ces architectures?
Généralement, c'est surtout parce que dans ces architectures-là, il y a une lumière très particulière. Bon, le travail qui a été fait sur les ateliers, qui est un travail principalement sur la lumière, j'ai choisi certaines architectures plus précisément parce que c'est un peu la même préoccupation qu'on retrouve. Surtout, une des premières architectures sur lesquelles je me suis vraiment attardé, c'est la Villa Wittgenstein. Et là, le travail sur la lumière est essentiel. Il correspond très fort à ce que moi je faisais dans les ateliers, en absolu.
Wittgenstein est un philosophe, hein, oui, un philosophe Ludwig. À travailler le langage, hein, la question
exactement.
Du langage.
Oui, la logique, c'est lui qui a fait le Tractatus Logicus. C'est
philosophicus.
Logicus, voilà.
Il a construit une maison.
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, bon, c'est une famille très riche, hein, non. Sa sœur voulait se faire construire un palais, en fait, plus qu'une maison. Elle a fait appel à un architecte viennois, qui a commencé à faire les plans, était tout élaboré. Et puis, c'est tombé à un moment où Ludwig Wittgenstein était dans un creux, il a fait un peu une dépression. Et sa sœur en a profité pour un peu l'axer sur autre chose que ses préoccupations intellectuelles. Elle l'a lancé sur la modification des plans de cette villa. Il est parti à fond là-dedans. Ça a duré 2 ans, je crois qu'il a tout modifié. Et le résultat, c'est que finalement, c'est l'architecte initial qui a dû signer les plans, mais c'est lui qui a tout fait.
Et qu'est-ce qu'il a modifié ?
Il a modifié la structure, les échelles, les rapports de fenêtres, pratiquement tout.
Et ce fait de modification a donné lieu à une architecture innovante ?
L'architecte initial qui avait fait les premiers plans faisait partie du mouvement d'Adolf Loos. C'est déjà dans un certain esprit. Mais lui a été beaucoup plus loin dans la rigueur. Moi, ce qui me fascine surtout, c'est la manière dont dans l'architecture que lui a conçue, la lumière fonctionne. Ce n'est pas tellement le fait que c'est rigoureux, c'est intéressant. En fait, je suis tombé là-dessus en trouvant un livre édité par une université anglaise qui a étudié, qui a fait tout un ouvrage sur cette villa avec des photos noir et blanc, mais qui ont été faites tout au début. Parce que depuis, ça a été transformé, il y a eu des meubles dedans, etc. Donc là, actuellement, je pense qu'on peut la visiter, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était initialement. Il se faisait que les images qu'il y a dans ce petit catalogue, qui sont des images noir et blanc, ressemblaient terriblement aux photos que moi je faisais d'après des maquettes. Et c'est comme ça que j'ai embranché là-dessus. Alors, dans la toute première salle qu'on voit là, c'est en fait un travail rétrospectif, la série des Artist Rooms. Et pour ne pas faire simplement une rétrospective en empruntant des pièces de l'époque qu'on pouvait retrouver, etc., j'ai trouvé un autre système. C'est-à-dire que je me suis basé sur ma propre documentation. À l'époque, ces pièces-là étaient... Bon, je construisais les éléments, c'était des petites vitrines. L'œuvre, c'était la vitrine, il n'y avait pas de photo. Mais moi, j'ai toujours documenté assez bien mon propre travail, ce qui fait que maintenant, je peux en fait remontrer le tout par l'intermédiaire des photos que j'avais faites à l'époque. Une sorte de parcours qui est disposé d'une certaine manière. Il est interrompu à certains moments par, je crois qu'il y en a 5 pièces qu'on a empruntées quand même, qui sont les pièces réelles.
Bienvenue au Grand Ornu pour la présentation de nos 2 expositions d'été. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter en compagnie donc des 2 artistes, puisqu'il s'agit de 2 expositions solo, Philippe de Gobert et Wesley Meurice, que je remercie d'être parmi nous.
Alors vous avez dit Philippe de Gobert, Bernlaus, il faut situer, c'est un artiste sculpteur anversois, enfin allemand d'origine, habitant Anvers, ayant tenu une galerie, la White Space.
Ouais.
Et élève de Beuys, je crois.
Oui, exactement, il était à Düsseldorf avec... dans la classe de Beuys. Je l'ai connu, très bien connu, donc.
Artiste malheureusement décédé aujourd'hui.
Oui, il n'y a pas tellement longtemps. Oui. 79, je pense. Ça commence un petit peu avant, mais la première fois que je les ai montrés, c'était au Palais des Beaux-Arts en 79. Et cette période a continué pendant à peu près une bonne dizaine d'années. C'est un peu une rétrospective de ces 10 ans-là. Parce qu'après ça, il y a eu une transition. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai voulu échapper à ce qui était toujours une référence à un artiste, à une œuvre, etc. Et travailler plus sur l'atelier d'artiste, mais dans l'absolu. Et donc là, il y a une petite période de transition pour laquelle il y a, dans la petite salle tout en bas, quand on descend les escaliers, il y a quelques images qui permettent de comprendre comment je suis arrivé à faire cette transition en éliminant dans des photos d'archives, des photos d'ateliers, en masquant tous les éléments qui permettaient d'identifier en fait l'artiste qui habite dans cet atelier-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la série des ateliers qui sont des ateliers imaginaires et qui n'ont pas une référence précise. Bon, il y a toujours évidemment des réminiscences de ce que j'ai vu, de ce que je rencontre, d'architecture que je vois. Et ceux-là, donc, sont simplement identifiés chronologiquement, c'est-à-dire qu'ils portent... Il y a l'atelier 1, 2, 3, etc., jusqu'à 16. Il y en a 16 comme ça. L'idée était de choisir des peintures qui représentent des chambres. C'est comme ça que j'ai commencé en fait avec la chambre de Van Gogh. D'après la peinture, l'Artist Room qui est consacré à ça, c'est une transposition en 3 dimensions de la peinture de Van Gogh. puis il y a eu, dans le même esprit, il y a une peinture de Magritte qui s'appelle « Les valeurs personnelles », qui est aussi une chambre dans laquelle il y a des meubles et des objets de dimensions complètement différentes, quoi. Enfin, il joue sur l'écart des échelles, d'après la peinture de Vermeer, l'atelier de Vermeer où il est en train de peindre, on le voit de dos. Ça, c'est aussi une reconstitution assez fidèle par rapport au tableau. Et puis le mariage des arts non finis de Van Eyck. Je crois que pour ce qui est vraiment des chambres. Il y a eu entre-temps aussi l'appartement de Tintin, la rue du Labrador. C'est cet appartement qu'on retrouve au début de tous les albums d'une certaine période, qui est toujours le même. Donc c'est la même architecture, la porte, la cheminée, le fauteuil rouge, la radio. Enfin, ouais. Chez moi, il n'y a jamais de personnage. C'est toujours uniquement les traces de leur passé. Donc...
Et puis, je pense à Pollock, à plein d'autres artistes.
Oui, oui, oui.
On va peut-être...
Oui, on peut aller voir. Alors, ce qui est particulier dans la relecture que je fais, c'est que je ne présente pas les planches d'une manière ni chronologique par rapport à la création de ces artistes rooms, ni chronologique dans le temps, mais j'ai décidé de les mettre par ordre alphabétique. Ce qui fait que la lecture par ordre alphabétique crée des voisinages tout à fait inattendus, qui sont intéressants parfois.
Cette construction en hauteur...
Alors la construction en hauteur, ça ne fait pas partie des artistes rooms. On l'a mis ici parce qu'elle était mieux dans cette salle-ci, mais c'est une œuvre de commande. C'est Antoine de Galbert, directeur de la Maison Rouge, qui m'avait donné une carte blanche pour faire une œuvre pour sa collection. Donc j'ai fait une construction qui est rouge, parce que bon, ça fait allusion à la Maison Rouge, bien sûr. Parce que la Maison Rouge, c'est un complexe assez important. C'est des anciens ateliers, et quand on rentre dans un couloir, il y a une petite maison qui était là au départ, qu'ils ont peint en rouge, et c'est comme ça que ça s'est appelé la Maison Rouge.
Chez Philippe de Gobert, on est dans des univers condensés. C'est quelqu'un qui travaille sur le modèle réduit, donc la maquette d'architecture. Donc il y a véritablement un travail sur l'échelle.
Et puis Albers, et puis B. Blake.
Brancusi.
La maquette est par définition un espace virtuel.
Oui, les planches, c'est chaque fois soit une image de l'artiste room lui-même, complété par des documents, des dessins préparatoires, ou alors des documents que j'ai trouvés. Là, c'est une petite carte postale qui vient de Beaubourg, je pense, qui sont en rapport.
Et Pierre Bruegel, par exemple.
Reconstitution assez fidèle par rapport à ce tableau dont il y a un dessin ici, qui est le repas de noces, en fait.
Daniel Buren avec ses rayures, évidemment.
Oui.
André Cadéré, son bâton.
Oui.
Vous l'avez connu, André Cadéré?
Oui. C'est une photo que j'ai faite avec Cadéré au Palais des Beaux-Arts, dans l'exposition de Rayman. C'est un Rayman qui est au mur, là. Il était là au vernissage. Moi, je l'ai connu comme pas plus que ça, quoi, mais je l'ai rencontré.
Car aussi, vous photographiez beaucoup.
Je suis photographe professionnel et je travaille comme photographe pour des musées, pour des galeries d'art. Depuis les années 70, en fait. Oui. Avant ça, j'ai été assistant dans des studios de photographie publicitaire, bon, ce qui m'a permis d'avoir quand même une très bonne formation technique. À un certain moment, j'ai abandonné ça pour pouvoir plus me consacrer à ma propre création et en même temps avoir une partie gagne-pain qui me permettait de libérer le temps et de faire les deux en même temps, quoi. En fréquentant un milieu intéressant. C'est comme ça que j'ai rencontré plein d'artistes, notamment Bernd Lohaus, Marc Thuéry, et ainsi de suite, quoi.
Oui, car vous étiez auprès de leurs œuvres pour les photographier.
Voilà, oui.
Mais vous étiez près d'eux dans le regard qu'ils portaient sur vos images.
Sans doute, oui. Oui. Oui, il y a des échanges, certainement. Et avec certains, l'amitié s'est vraiment installée. Avec Marc Thuéry, notamment, jusqu'à son décès, on était très assez bien liés. Bernd Lohaus aussi, j'ai beaucoup de... C'était un personnage très, très intéressant.
Et qui d'autre?
Marcel Brotars.
Oui.
Puis, ouais. J'ai fait des photos du tout début, en fait. À l'époque où quand il a fait le jardin d'hiver au Palais des Beaux-Arts. Et puis après ça, il est parti, parti en Allemagne, en Angleterre. Et puis je l'ai revu encore juste un petit peu avant qu'il ne décède. Et après ça, j'ai encore continué, même encore maintenant, à travailler avec sa fille.
Marie Puck,
voilà.
On va arrêter, il y a un train de bagage.
Oui, d'accord. Oui, parce qu'il démonte un échafaudage.
Le parcours débute avec l'œuvre de Philippe de Gobert. Il s'agit d'un parcours rétrospectif dans le cas de Philippe. Est assez, par moments, je dirais, anecdotique. On est dans la description d'espaces qui sont excessivement et méticuleusement détaillés. C'est véritablement un art de la description. Et on débute avec des œuvres qui font référence de manière très spécifique à des artistes modernes et contemporains, puisque c'est la fameuse série des ateliers d'artistes célèbres qu'il a réalisé sous forme de maquettes. Donc on va retrouver l'atelier de Mondrian, l'atelier de Warhol, l'atelier de Joseph Kossuth, réaliste ou imaginaire, ou entre les deux. C'est que l'intention était clairement de présenter un parcours, on va dire, à caractère rétrospectif, étant donné que Philippe travaille depuis les années 70. Et qu'il était intéressant, au bout de près de 40 ans de carrière, de montrer justement l'ampleur du travail et également la façon, j'admire beaucoup de Gobert pour cela, c'est cette opiniâtreté, c'est-à-dire à la fois une sorte de patience qui est, je dirais, très appropriée quand on réalise des maquettes, mais également une ligne de conduite et une démarche qu'il mène de façon excessivement fidèle à ses premières intentions artistiques. Je trouve qu'il y a une grande cohérence.
Et ce sont ces photographies qui sont prises à chaque fois à travers une maquette de lieux existants.
C'est un lieu dans lequel il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la création, où il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de la création.
La plupart du temps, de lieux dans lesquels Philippe n'est jamais allé, donc... Toujours le même principe, donc il construit un modèle, ce qu'il appelle un modèle, une maquette, en se documentant.
Ce n'est pas en fait un espace qui a été abandonné, ce n'est pas un espace qui est alloué ou qui est vide, c'est un espace dans lequel il y a quand même certains éléments qui donnent des signes qui permettent de l'identifier à un lieu de création.
Et puis il photographie l'intérieur de ce petit volume. Donc on arrive à des aberrations, puisque évidemment on n'est pas dans la réalité, et il y a des perspectives, des jeux d'échelle qui ne sont pas réels et qui intriguent notamment les personnes qui ne connaissent pas le processus de réalisation de la photographie et qui s'imaginent que c'est une photographie qui est prise à partir de la réalité. Donc il y a tout ce jeu qui reste présent et qui est très fort et qui a toujours été très fort dans le travail de Philippe de Gobert, c'est où se trouve la réalité photographique, dans quel espace on se situe, et donc c'est toute cette réflexion autour de ça.
Je pense à ce bar, je pense à la salle de cinéma, enfin je pense à la station d'essence. Et c'est vrai que Philippe positionne le même type de regard, également le même type de transposition du regard, dans le sens où son regard photographique donne lieu à des œuvres intermédiaires dont il va ensuite retirer des photographies, mais qui ne seront plus des photographies, qui seront des interprétations photographiques d'une situation qu'il a entièrement recréée, qu'il a travaillée, soit généralement par l'intermédiaire de ses maquettes.
Qu'appelez-vous les boîtes à outils ?
La déstructuration, la déconstruction de ces modèles.
Ici, ce sont des éléments de décor.
Une fois que les photographies ont été réalisées à partir de ces modèles...
Qui ont servi, donc, à faire, comme toujours, à faire des photos.
Il les range.
Je ne voulais pas les montrer mis en scène, quoi. Donc, je les ai simplement démonté et stocké dans une boîte. C'est pour ça que j'appelle ça une boîte à outils.
Et il les range dans une boîte à outils qui fait 80 cm par 80 cm.
Ce sont des éléments qui ont servi et qui pourraient éventuellement resservir pour faire des images.
Et qu'il associe sur le couvercle de la boîte une photographie du lieu. Parce que par exemple, là devant nos yeux, nous avons une photographie de l'atelier de Bourdelle, donc le musée Bourdelle qui se situe pas très loin d'ici d'ailleurs, derrière Montparnasse. Sur le couvercle, donc une photographie prise par Philippe de Gobert de cet atelier de Bourdelle. Et ensuite, à partir de cette photographie, il a réalisé une maquette et cette maquette est rangée maintenant dans la boîte à outils. Donc, il n'y aura plus de photographie, a priori, à partir du moment où la maquette est rangée.
Il était important, dans le contexte d'une exposition rétrospective, de pouvoir publier un ouvrage monographique. On a souhaité publier en deux langues, donc français, anglais, évidemment pour que le travail de Philippe de Gobert puisse bénéficier d'une visibilité plus importante. J'en profite d'ailleurs au passage, même si ça n'a rien à voir avec l'exposition d'aujourd'hui, pour dire que Philippe sera à Paris Photo dans une exposition solo que sa galerie organise donc à Paris.
Ce sont des boîtes qui peuvent être soit appliquées au mur, accrochées au mur, soit juste posées sur un socle, ou qui peuvent être stockés comme une boîte, comme une petite caisse finalement, comme certains collectionneurs font.
Herman Dallet, pourquoi Philippe de Gobert cite votre nom quant à son travail ?
Ils rangent leurs œuvres dans des réserves, et donc c'est comme un modèle qui serait rangé dans une réserve.
Ah, ça c'est à Philippe de Gobert qu'il faut le demander. Mais peut-être est-ce parce qu'on se connaît depuis de très nombreuses années, je ne peux pas situer exactement où et quand je l'ai vu pour la première fois, ou depuis quand je le fréquente. Mais donc Philippe de Gobert, je l'ai connu comme photographe ou d'abord comme artiste, parce que chacun sait qu'il a donc deux casquettes, comme on dit. Je crois que je l'ai connu d'abord comme photographe et que j'ai fait appel à lui, comme toutes les personnes qui ont un jour besoin de la photo d'une œuvre d'art, et que c'est automatiquement à lui à qui on pense en premier lieu, à Bruxelles, enfin pour certains.
Au départ, j'ai rencontré le travail de Philippe de Gobert chez un collectionneur. J'ai vu une magnifique photographie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est vraiment... Donc je ne savais pas qu'il avait ça, cette pratique-là. Donc en le voyant réaliser ses maquettes, je trouvais ça absolument admirable. Donc je parle de magicien parce que c'est vrai que là, on est dans un processus de création de choses qui sont réelles, mais qui sont à la fois absurdes, et il y a des jeux, on s'amuse, et ça me plaît beaucoup.
Ensuite, j'ai découvert l'autre personnalité de Philippe de Gobert, c'est-à-dire Philippe de Gobert, artiste. Je ne me souviens plus très 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 bien, mais je crois que j'avais lu dans un magazine, en revenant de New York, un compte-rendu d'une exposition de Philippe de Gobert à l'Art Shop du Palais des Beaux-Arts. Et à mon avis, ça pourrait se situer dans les années 77 ou 76. Et où il y avait, entre autres, une pièce intitulée « Hommage à Marcel Brotars ». Je me souviens que je me suis précipité de Zaventem à l'Art Shop. Je ne sais pas si je suis d'abord passé à la maison. Et je crois que c'est comme ça que je me suis porté acquéreur de la première pièce de Philippe de Gobert, et qui était donc une maquette.
Lino Pollegato.
Il y a deux choses. Hein. Il y a beaucoup de maquettes, mais il y a une chose fondamentale, c'est un travail sur la lumière. On est juste voilà, en face d'une grande vitre qui laisse filtrer la lumière. Je crois que c'est ça, c'est tout le travail de Gobert. Hein. C'est un trompe-l'œil, en réalité. On nous montre les maquettes, on nous indexe les maquettes, en réalité, c'est un travail qui parle de la lumière, ombre et lumière. C'est le fil rouge de son travail. Je pense qu'on doit physiquement se laisser pénétrer par l'instant, l'instant qui devient sacré. C'est un trompe-l'œil continu, finalement. Et cette sensation physique ne peut être perçue que là où on se trouve, là, maintenant. Ici et maintenant, avec ce filtrage qui rentre dans cette pièce et qui nous parle finalement du travail. Quoi. Tout est là.
un architecte ou un scénographe, c'est que pour rendre le vrai, il faut faire faux. L'exemple, c'est un décor d'opéra qui va rendre le vrai est évidemment entièrement bâti avec des systèmes de fausses proportions, des systèmes de coloris dégradés, et l'impression est celle du vrai. C'est aussi évidemment une grande règle de l'art que pour faire le vrai, on fait le faux. Je ne sais pas, si on prend la peinture, qu'on regarde les femmes de Ingres, par exemple, elles paraissent vraies, mais elles n'ont rien de vrai. Elles ont des corps démesurés, des coups démesurés, parce que cette idée, c'est que la vérité est ailleurs. Elle n'est pas dans une simple prise de vue photographique des choses. Et le travail de De Gobert me plaît beaucoup, parce qu'au fond, que fait-il ? Il restitue des maquettes, par exemple, d'intérieur de maisons, à une échelle donnée, et ensuite il va photographier les maquettes et les restituer à une échelle plus grande. Donc c'est un jeu extrêmement ambivalent et ambigu sur l'idée d'échelle, sur l'idée de ressemblance, sur l'idée de à l'identique, sur l'idée et cette autre chose. Donc voilà un parcours d'artiste extrêmement subtil et qui évidemment me touche beaucoup parce qu'il parle de l'espace intérieur, de l'espace où nous vivons, et il parle de cette incroyable poétique de l'espace qu'il restitue à travers son travail.
Vous ne dites pas le mot poésie, pourquoi ?
Ça va plus loin que la poésie. La poésie, ça fait sourire aujourd'hui, hein ? C'est d'un radicalisme pur, pur et dur, je dirais, comme le soleil et l'ombre. Ce sont des sensations physiques qui sont de l'ordre de l'éprouver et pas du ressenti. C'est pas un travail conceptuel, c'est un travail d'éprouver.
Et quand je disais le mot poésie, je vous tirais vers Marcel Brotars.
Est-ce que c'est de la poésie chez Brotars ? C'est toute la question que je me pose.
Ce sont des éclairages qui ont l'air extrêmement naturels, mais qui en fait sont des éclairages assez complexes. Parce que c'est éclairé en studio avec parfois 5 à 6 sources de lumière différentes.
En toile de fond à cette émission, Michel Botson, un artiste surgit, c'est Marcel Brotars.
Je comprends que Philippe ait été fasciné par Marcel Brotars, puisque Marcel Brotars n'est pas un artiste pop au regard froid, mais utilise les moyens du pop, ou utilise les moyens de la poésie pour déplacer son système de représentation et pour passer à l'objet ou passer à l'image. Mais ce passage à l'objet ou à l'image chez Marcel Brotars contient encore, je dirais, toute la démarche poétique qu'il avait d'abord développée avant de dessiner, de décider avec, pardon, avec, mais le mot dessiner, le lapsus est intéressant, avec pense-bête de passer à autre chose, de pratiquer autrement la poésie que par le texte, mais plutôt par l'intertexte. Et l'intertexte, ça peut être, c'est pas uniquement le blanc de la page, ça peut être les œufs, les moules, un certain nombre de tout ce qu'il a lui-même ensuite produit dans son œuvre. Ce même rapport, Philippe utilise les objets pour ensuite en faire une mise à plat.
C'est les coulisses d'un théâtre ou d'un studio de cinéma.
Chez Brotars, il y a une rébellion. Il y a une remise en cause d'un système qui, à l'époque, faisait sens. Dans les années 60, bon, là, on a vu la poésie après, mais d'abord, il y a cette révolte de l'artiste, cette façon de faire de l'art autrement. Mais je crois qu'au départ, il y a une...
Et il y a les boîtes à outils de Philippe, et on peut naturellement penser à la boîte en valise de Marcel Duchamp, c'est-à-dire ce qui, comment donner dans une boîte les éléments d'une œuvre, c'est-à-dire aussi d'une pensée, et avec ces boîtes à outils, quelles sont les différentes strates temporelles de la production d'une œuvre chez Philippe ?
Moi, j'adore l'idée qu'on puisse un jour
que vous avez montré à Bruxelles.
Oui, elle a été montrée à Bruxelles.
Par la suite, j'ai encore eu l'occasion de acheter deux autres œuvres de Philippe de Gobert, et aussi une maquette que j'ai achetée aux enchères, une vente aux enchères au profit de l'Armée du Salut, et qui est une maquette extraordinaire qui traduit bien toute l'intelligence et la poésie de Philippe de Gobert et son inventivité, Il avait imaginé, était-ce justement parce que c'est destiné une vente de l'armée du salut, un atelier d'artistes qui avait eu des tas d'occupants et sur le sol, sur les murs, et qui, comme les artistes sont de grands négligents, qui avait laissé des tas de pièces derrière elle. Et dans cette petite boîte, on a un résumé de tout l'art contemporain. Sur le sol, on voit les contours d'un dripping de Pollock, il y a Manzoni, il y a peut-être un bâton de Cadéré qui traîne dans un coin, il y a peut-être un Fontanin, une toile déchirée. Enfin, c'est un petit résumé de l'art de l'époque.
Elle est là.
Une maquette.
Ouais, enfin, ça peut mourir, c'est la chaîne, maquette, là, voilà. Boîte définition, il y a la boîte-boîte, et il y a la boîte photo, et le tout est dans une boîte.
Bon, il ne reste que les traces qui sont les drippings qui ont débordé de la toile. Parce que la partie centrale était occupée par ce qui est devenu l'œuvre. Et là, le plancher est encore vierge. Dans la maquette réelle, tout ça c'est en couleur. Ici c'est des photos noir et blanc. Dans la maquette réelle, c'est vraiment tous des bidons de couleurs différentes. Des drippings.
Et puis j'ai une troisième boîte de lui qui est là, qu'on peut regarder ensemble. Il traduit aussi son côté poétique et son intelligence, et qui est une boîte dédiée à Joseph Kossuth, et où dans la boîte, il présente les œuvres bien connues de tous de Joseph Kossuth, où il met côte à côte l'objet, la définition de l'objet et la photo de l'objet. Acheté au Art Shop le 15 décembre 1979 et j'aime bien donner le prix des choses pour 28 000 francs belges.
De Gobert a fait tout un travail de maquette sur la reproduction du Musée des Aigles qu'il a vu physiquement quand elle a été montrée. Et ce grand travail, c'est plus possible de le voir aujourd'hui, sauf dans le petit film qui avait été tourné à l'époque, heureusement, dans son atelier. Les photos étaient encore au mur, donc l'interview qu'on avait faite ensemble ce jour-là est le dernier vestige, la dernière trace. Peut-être ça la poésie, hein, la trace qui reste après la censure.
La vente publique, l'atelier d'artiste, le 24 décembre 1982, pour 21 000 francs, plus les frais d'enchères, pour 23 460 francs. Et alors, Philippe de Gobert chez Velgenois Rome, le 30 mai 96 pour 95 000 francs.
Je crois que ici, finalement, le Max est un outil. Ce n'est pas seulement un outil pour montrer de belles expositions d'artistes consacrés. C'est aussi un outil qui permet à des générations d'artistes francophones de sortir de l'ombre. C'est le cas de le dire avec de Gobert.
Fameuse maison de verre de Charot.
Maurice Culot, nous sommes à la Fondation pour l'architecture à Bruxelles et nous parlons de cette maison de verre de Charot, une maison que vous connaissez, que vous avez visitée. Une maison d'ailleurs que je crois savoir a inspiré un autre architecte à Bruxelles.
Oui, c'est exact. La maison de verre de Charot est construite à l'intérieur d'un bloc, donc on ne la voit pas de l'extérieur de la rue, il faut passer sous un porche. Et dans cette cour, on arrive, et la particularité de cette maison, c'est d'avoir des façades entièrement faites en verre, c'est-à-dire en blocs de verre, sertis dans une structure en métal.
La maison de l'Arbat, Warhol.
C'est la dernière photo d'exposition.
Le rêve brisé d'Amédée.
C'est magnifique, d'une poésie immédiatement perceptible, rare. Donc la photo s'intitule « Le rêve brisé d'Amédée », où l'on se trouve face à une verrière dont certains morceaux de vitres sont tombés. À travers la verrière, on voit un arbre et les vitres sur le sol, les morceaux de vitres ont gardé le reflet de l'arbre. Mais qui est Amédée? C'est en fait Amédée aux enfants. Amédée aux enfants étant un peintre contemporain de Le Corbusier. Et pourquoi le rêve brisé? Mais c'est parce que l'atelier, qui est en fait une maquette d'atelier, en fait cet atelier a été construit par Le Corbusier. C'est la première maison que Le Corbusier a fait construire à Paris. C'est la maison d'Amédée aux enfants. Et par la suite, Amédée aux enfants et Le Corbusier se sont brouillés à jamais, se sont gravement disputés, ne se sont plus jamais reparlés. Et donc la maison habitée, la maison d'une amitié brisée aussi.
Maison de l'Arbat, Melnikov.
C'est Denis Guilhem qui parle.
Ce que j'aime beaucoup également dans l'œuvre de Degobert, c'est évidemment toute la relation, je dirais, entre la maquette et la photographie. Et c'est un artiste qui travaille beaucoup sur les jeux d'optique, sur les illusions, sur les mises en abîme, les jeux d'échelle, qui sont autant de paramètres liés à la maquette, mais également à l'appareil photographique. Et en mixant les deux, et ça vous allez le découvrir dans la dernière salle de son exposition, je pense qu'il aboutit à un travail d'un grand niveau, de niveau international, dans la veine, je dirais, des artistes qui jouent entre la maquette et la photographie. Vous savez qu'il en existe d'autres, ils sont peu nombreux, mais qui ont également une importance dans l'art contemporain. Thomas Demant en est un, James Casabere en est un, et je pense que c'est une famille assez réduite d'artistes, donc c'est un travail, je dirais, très spécial, très peu ordinaire.
Comment se fait-il que je travaille à une petite échelle? Comment est venue l'idée de faire des maquettes? Vous allez voir, les maquettes sont assez petites, l'échelle est entre un dixième et un quinzième par rapport à la réalité. Et en fait, cette idée m'est venue simplement en voyant des petits jardins japonais dans des sortes de vases qui reconstituent un univers, mais à l'échelle réduite, avec des bonsaïs, avec des petits rochers, des choses comme ça. C'est assez, souvent assez kitsch, mais ça permettait d'avoir une certaine fascination par rapport à une vision. On a immédiatement une vision globale d'un monde, tout en regardant quelque chose que tout petit. C'est comme ça que m'est venue l'idée de commencer à travailler à cette échelle-là. Et depuis, bon, j'ai toujours continué en gardant les mêmes échelles, et c'est pour ça que même pour faire des très grandes photos, je travaille toujours à une échelle réduite. Bon, contrairement par exemple à des collègues dont Denis a parlé, qui est James Casbier, par exemple, américain, qui lui aussi construit des décors, qui refotographie pour faire des grandes photos, lui il travaille à une échelle beaucoup plus grande, parce que c'est plus facile. Seulement, il détruit les décors. Demain, c'est la même chose. Il construit des grands dispositifs en papier, en carton, bon, qui sont presque à échelle réelle, qui refotographie. Et puis son œuvre, en fait, ce sont les photos qui en résultent. Mais l'œuvre initiale est détruite. Tandis que moi, je commence par construire des modèles à petite échelle, qui parfois restent des œuvres en tant que telles, et notamment dans toute la première partie, la partie de la série qui sont les artist rooms. Le but n'était pas d'en faire des photos. Le but, au départ, c'était de faire des objets qui restaient tels quels. Donc toute la première partie est toujours référentielle à des œuvres, à des artistes, à un climat particulier. Et ce n'est qu'à un certain moment que j'ai voulu échapper à cette référence en traitant l'atelier comme quelque chose d'absolu. Deuxième partie de mon travail, qui est toujours de la construction de maquettes, qui donne lieu à des photographies à ce moment-là, parce que dans la première veine, bon, je construisais les éléments, j'ai simplement tout photographié au fur et à mesure pour des questions documentaires, pour avoir des traces, mais le but n'était pas d'en faire des photos. Et ce que vous allez voir dans la première salle, c'est une reprise de la plupart de ces petits artist rooms, mais uniquement sous forme de documents photographiques, qui seront ponctués par 4 ou 5 artist rooms réels qu'on a empruntés pour l'occasion. Toute cette série, au lieu de la présenter d'une manière chronologique, soit une chronologie de leur réalisation, donc en commençant par celle que j'ai fait en premier et ainsi de suite, ou de les présenter dans la chronologie de l'histoire de l'art, j'ai préféré les présenter par ordre alphabétique. Ce qui est un peu paradoxal, mais l'intérêt, c'est qu'avec cette confrontation qui est purement alphabétique, on a des voisinages qui sont assez intéressants. On va par exemple passer de Vermeer à Warhol. Ça, c'est l'idée de la première salle. Alors, il y a une petite salle, je ne sais pas si vous rappelez un petit peu comment fonctionne le musée. Il y a une deuxième petite salle quand on descend la pente, une toute petite salle qui est la salle des estampes. Là, je montre quelques travaux qui sont vraiment des travaux intermédiaires entre la période des artist rooms et le début des travaux sur les ateliers, les grandes photos faites d'après des maquettes d'ateliers. Puis on remonte et on a la deuxième grande salle, qui est une salle qui est plus dans des conditions de lumière très différentes. On a peint tout en gris et le climat est beaucoup plus théâtral. Et là, je montre principalement des maquettes et quelques images, quelques grandes photos. Il y a notamment aussi un travail très récent qui est dans cette salle-là, qui est un travail sur le théâtre, c'est-à-dire que j'ai reconstitué la partie scène d'un théâtre, c'est-à-dire toutes les coulisses avec les machineries, etc., et qui ont donné lieu à deux très grandes photos. Ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'est que la partie coulisses, en fait, correspond à l'atelier pour les artistes. C'est l'équivalent de l'atelier d'artiste, mais pour le théâtre. Et alors, dans la troisième partie, c'est la moitié de la salle pont, qui est toute blanche et avec la lumière du jour, je ne présente que des grandes photos, et principalement des photos qui sont issues de mes préoccupations pour l'architecture. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus tellement des photos de la série des ateliers, mais plutôt des photos faites après des maquettes que j'ai élaborées à partir d'architecture emblématique, comme par exemple l'atelier de Melnikov à Moscou, la villa Wittgenstein à Vienne, la maison de verre de Charot à Paris.
C'est un peu une œuvre qui n'est pas une œuvre d'architecte, puisque Charot était surtout un décorateur qui a fait énormément de meubles, de luminaires, dont l'œuvre est très cotée aujourd'hui, comme Malès et Vins. Et dans cette maison, il a absolument tout dessiné. Il a dessiné les poignées de porte, l'ameublement, les salles de bain. Donc c'est une œuvre d'art totale et exceptionnelle dans la mesure où, au fond, elle est restée telle qu'elle. Tout est en place aujourd'hui. Cette maison de verre est à peu près contemporaine des grandes maisons de Le Corbusier. Et il est vrai que l'architecte belge Paul-Amaury Michel est allé à Paris à cette époque-là, a visité la maison de verre, a visité la maison de Le Corbusier. Et il a mélangé ces deux influences pour faire à Bruxelles une autre maison de verre. Et là, cette particularité d'avoir la façade sur rue inspirée de Le Corbusier et la façade sur jardin inspirée de Charot. C'est donc une collision, on pourrait dire, architecturale entre deux influences très directes, parce qu'on peut dire qu'il s'est vraiment inspiré de très près de ces deux architectes, mais le caractère original, c'est d'avoir, au fond, fait une façade de Corbusier et une façade Charot. Et comme il y a beaucoup de vitrages dans cette maison, on l'appelle aussi la maison de verre. C'est la maison de verre bruxelloise.
Pardu, artist rooms.
Je ne suis pas un maniaque non plus de la construction. Les choses doivent être bien faites, relativement finies, mais pas... Je ne suis pas aussi maniaque que les gens qui font des trains électriques qui doivent rouler, où la mécanique doit être exacte. Ici, ça a quand même une interprétation tout à fait libre des choses.
Lino Pollegato parle de Vermeer quant à la lumière.
Bon, que ce soit Vermeer ou d'autres, mais... Ouais. Beaucoup de peintres hollandais fonctionnent là-dessus. C'est l'architecture qui conditionne cette lumière aussi. Chez Vermeer, c'est l'architecture qui conditionne. Chez Van Eyck, c'est la même chose. C'est parce que ce sont ces fenêtres hollandaises sur lesquelles il y a des volets. On peut fermer les volets du bas et laisser ceux du haut au-dessus. Donc il y a une lumière qui descend.
Artist Rooms, Pollock, Magritte, Brancusi.
La couleur amène de l'anecdote qui n'est pas nécessaire dans le travail que je fais. Parce que les maquettes elles-mêmes ont une couleur naturelle.
Duchamp, Van Eyck, Van Gogh.
C'est le temps du spectateur qui compte et pas le temps de la prise de vue. Donc c'est... Ma photographie, c'est le contraire de la photographie de Cartier-Bresson, l'instant décisif. Et moi, il n'y a pas d'instant décisif, c'est le temps qui...
Warhol, Adrenart.
Ce qui était un élément fondateur de ce qui a donné à Philippe de Gobert toute l'ampleur de son travail, c'est, je pense, son premier travail architectural sur la maison de Ludwig Wittgenstein. Et ce n'est pas pour rien, naturellement, qu'il a pensé à la maison de Wittgenstein, parce que, naturellement, il y a ce rapport au Tractatus, à la pensée philosophique, mais aussi à Wittgenstein qui crée cette maison, et c'est une des toutes belles architectures du XXe siècle, qui est par excellence dans la mise en relation entre une pensée et une architecture, alors que la personne qui l'a réalisée n'est pas architecte. Mais il a Espèce d'être architectonique de la pensée.
Adrien Hart.
Le travail de Philippe de Gobert à un jeune public, on a tendance à tirer l'attention d'une part sur tout son travail poétique, l'aspect assez onirique de ses images et l'aspect mystérieux en fait des images, qui saute probablement assez rapidement aux yeux, c'est-à-dire qu'on est d'abord pris par une image qui semble tout à fait plausible, mais rapidement des éléments sèment le doute, et je pense qu'avec un jeune public, en partir de ce doute-là va être assez intéressant et puis basculer justement sur le rapport à la maquette.
Chaque fois qu'il a choisi, en effet, je pense à la maison de Constantin Melnikov, l'architecte Melnikov, cette maison qui existe toujours à Moscou, cette maison de l'Arbat en 1920, qui est un monument bien trop peu connu. Je pense à la maison de verre. Enfin, dès le moment où il choisit une architecture, ce sont des positionnements d'exigence. Et ces positionnements d'exigence, quasiment il les vide de tout contexte anecdotique, pour rendre compte du fait que cette relation à l'espace, à la lumière, au lieu de réflexion, au lieu donc qui va être, comme dans une peinture chinoise, le poète qui se met près d'un lac et qui regarde le vol des oiseaux et le défilement des nuages, le tout avec, et puis ensuite transposé par un peu d'encre.
L'enfant, par son observation de l'image et son rapprochement aux maquettes qui l'entourent, comprendra probablement assez rapidement le processus en fait de création de Philippe de Gobert.
Jamais, jamais, jamais il ne parle de son activité artistique. Il a vraiment un cloisonnement étroit entre les deux, et il faut que je l'interroge pour qu'il dise quelque chose, mais spontanément il m'en parlera jamais. Alors je crois qu'il fait de l'art comme d'autres gens font du sport en chambre, et c'est toujours moi ce qui me sidère dans le monde de l'art. Moi je trouve que tout le monde a le droit de faire de l'art, mais ce qui est malheureux, c'est que tous ceux qui font de l'art veulent imposer leur art aux autres, et ça devient insupportable. Soit parce qu'ils veulent absolument qu'on leur reconnaisse leur talent, leur savoir-faire, soit qu'ils veulent en tirer un avantage matériel, et c'est pour ça que le monde de l'art est vraiment, disons, encombré de tous ces personnages. Mais surtout, surtout, il faut dire que Philippe de Gobert n'appartient pas à ces gens-là et qu'il fait son art, je ne vais pas dire pour lui, mais enfin qu'il fait un art. Moi, c'est son intelligence, sa discrétion, son côté poétique et son côté ironique et son humour. Il est bourré de qualité et qui donne effectivement une production artistique, disons, tout à fait hors norme et exceptionnelle.
Et vous avez remarqué que pour certaines photographies, on est dans des architectures de ville où le fond est peint, comme au théâtre.
Un des appartements de la Cité radieuse du Corbusier.
Croisez-vous souvent Philippe de Gobert dans les salles du Max en train de photographier les œuvres des autres?
L'atelier d'Ozenfant par le Corbusier. Bon, je ne sais pas, il y en a donc rien à voir une ou deux autres, mais ça se limite plutôt à cette partie-là du travail. Voilà, comme ça on a un petit peu fait le tour.
Oudamide.
Au Musée d'art contemporain du Grand Tournu jusqu'au 3 septembre, Philippe de Gobert, de toutes pièces. Avec Philippe de Gobert, Tony Guilen, Lino Pollegato, Frédéric Van Leuven, Oudamide, et les voix de Aline Vidal, Michel Botson, Herman Dalette, et Maurice Culot. Philippe de Gobert, de toutes pièces, par Thierry Junico. Le Monde Invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Non, ce qui m'intéressait moi ici, c'est d'utiliser la percée, comme de voir le jardin à travers ce qui est une des caractéristiques dans ces maisons japonaises où on est à ras du sol et on voit le paysage. Donc c'était l'occasion de profiter une fois de cette fenêtre.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.